Philosophie de la matière par le père Philippe Arimon, 13 février 1990, deuxième cours.
Oui.
Vous avez établi une comparaison entre le principe qu'énonce ici Aristote, tout ce qui est mu par un autre, et l'axiome de non-contradiction en métaphysique.
Oui, oui, oui.
Et ensuite, vous l'avez rapproché du principe de causalité.
Non, pas rapproché.
Si vous tout ce qui est en puissance présuppose un acte.
Non, j'ai regardé en parallèle. Oui. Je n'ai pas rapproché, j'ai dit analogiquement. Oui. Or, analogiquement, la comparaison que vous faites entre ce qui est en puissance et ce qui est en acte, c'est un point de vue critique. Vous pouvez établir comme principe tout ce qui est en puissance dépend de l'acte. Comme toujours, la critique exprime quelque chose qui implique une réalité existante comme fondement. Oui. C'est pour bien comprendre la différence entre la nature, qui est principe propre de la philosophie de ce qui est mu. Oui, quelle différence y a-t-il, autrement dit? C'est ce que j'avais souligné la dernière fois, je crois, la différence qui existe entre la nature, la phusis, principe propre de ce qui est mu. Dépendant d'un autre. Mais ce qui est mieux est un effet. tout ce qui est muet, toujours un effet, puisqu'il dépend d'un autre. Donc c'est pas un principe. Oui.
Et ce qui est source de la puissance foncière qu'il y a dans tout ce qui est nu, c'est bien le fondement, enfin, la source, c'est bien la nature matière.
Forcément. Et quand cet homme résonne sur tout ce qui est mu par un autre, il fait tout de suite l'acte de la puissance. Comme attitude réflexive. Tout ce qui est mu est en puissance. Tout ce qui meut est en acte.
Est-ce qu'on pourrait dire que la raison de ce principe, c'est que tout ce qui est mu est matière?
Tout ce qui est mu est fondamentalement matière. Transport ému, soit par lui-même, soit par autre chose. Dans tout ce qui est mu par soi, le moteur est évidemment avec le mu. Vous avez l'automobile ? Le moteur est évidemment avec le mu. C'est évident. Le moteur est transporté. Vous ne le laissez pas à côté. En ces choses même, en effet, existe le moteur premier. Et il n'y a rien dans l'intervalle. D'autre part, tout ce qui est mu par un autre se présente nécessairement sous quatre formes. Oui, vous êtes dans un raisonnement par les possibles. C'est toutes les possibilités. Vous raisonnez sur toutes les possibilités. C'est pas du tout un raisonnement philosophique. Il y a en effet quatre espèces de transport, d'une chose par une autre. L'attraction, la poussée, le portage, le roulement. Quand vous transportez les plats de la cuisine au couvent des sœurs, posez-vous la question, êtes-vous devant une traction, une poussée, un portage, un roulement ? Il faut se poser la question, si on est aristotélicien, il faut bien, arrêtez-vous, en vous posant la question. Alors il y a le foras, l'epsis, l'osis, l'ogesis, c'est mieux de le dire en grec, hein. Et l'oinesis. Tous les mouvements selon le lieu s'y ramènent. L'impulsion est une poussée où le moteur agit de soi, où le moteur qui agit de soi suit ce qu'il pousse. C'est très proche de la description tout ça. Il y a répulsion quand le moteur, après avoir mu, ne suit pas. Il y a projection quand il produit un mouvement plus fort que le mouvement naturel et transporte le mu jusqu'à ce que ce mouvement l'emporte. Et encore, la dilatation ou la condensation sont répulsion et traction, car la dilatation est une répulsion, vu que la répulsion part du moteur lui-même ou d'autre chose. Et la condensation, une traction, vu que la traction va vers le moteur lui-même ou vers autre chose. Par suite aussi, leur espèce, comme le serrement et l'écartement dans le tissu. L'un est en effet condensation, l'autre dilatation. Vous tirez dessus, et le tissu, c'est pour condenser après, c'est plus difficile. De même, les autres congrétions et séparations, ce ne sont là que dilatation et condensation, sauf celles qui ont trait à la génération et à la destruction. En même temps, on voit que la concrétion et la séparation ne sont pas un autre genre de mouvement, car elles peuvent toujours être classées parmi l'un des mouvements suscités. En outre, l'inspiration et traction, l'expiration poussée, de même le crachement et tous les autres mouvements organiques de rejet ou d'absorption. Les uns, en effet, sont des tractions, les autres sont des répulsions. Voilà, c'est le biologiste qui intervient, vous voyez. Il a tous les mouvements possibles. Il a oublié le hockey. Quelle sorte de mouvement, là ? Et il faut aussi y ramener les autres mouvements, selon le lieu. Tous, en effet, tombent sous les quatre sortes. Donc, c'est amusant comme raisonnement, vous voyez, ça qui m'intéresse comme méthode. La description. Puis on va ramener, on est parti de quatre, on avait l'extension, puis on ramène à quatre. Et on ramène à quatre pour pouvoir raisonner sur quatre. Pour montrer que tout ce qui est mu dans le lieu est mu par un autre. C'est la constatation, ça. Parce que le mouvement local a cet immense avantage que c'est celui que vous voyez, vous constatez. C'est le premier dans l'ordre de nature et c'est le premier aussi visible. Ça, c'est sûr. C'est celui que vous constatez le mieux par le toucher. Le mouvement local, ça se constate par le toucher. Une roue qui tourne. Mouvement local. Vous le touchez, la roue. Si elle tourne trop vite, vous ne voyez plus qu'elle tourne. Tandis que vous, à votre main, elle verra toujours qu'elle tourne. À tel point qu'à un moment donné, vous serez obligé de lâcher. Mais ça tournera trop vite. Et il faut y ramener donc les autres mouvements selon le lieu. Tous en effet tombent dans les quatre sortes. Ainsi encore le portage et le roulement. Bon, on va laisser tout ça parce que ça n'a pas un intérêt extraordinaire pour nous. Maintenant, cela est évident également d'après les définitions. La poussée est en effet le mouvement qui partant de l'objet lui-même ou d'un autre va vers un autre. Alors l'attraction également. Or, il est impossible à une chose de mouvoir, soit à partir de soi vers une autre, soit à partir d'une autre vers elle-même, sans contact, par suite, entre ce qui meut et ce qui mue. Selon le lieu, il n'y a évidemment pas d'intermédiaire. Donc tout ça pour montrer qu'il n'y a pas d'intermédiaire, qu'il y a le contact. Direct. Alors, dans l'altération, on va le passer. C'est pas la peine de tout regarder. Si. Dans l'accroissement également. Alors, que d'autre part, tout altéré soit altéré par les sensibles, et que l'altération existe seulement dans ce qu'on peut dire pâtir par soi. Sous l'action des sensibles, c'est ce qu'on doit voir pour ce qui suit. Donc l'altération existe dans toute sensation. Ça, c'est très intéressant pour le point de vue psychologique. Toute sensation implique une altération. Comme toute passion implique une altération. Alors, je peux très bien regarder la sensation dans ce qu'elle a de tout à fait pur. Je connais un sensible propre. Et puis, l'aspect de son conditionnement, qui est l'altération. Alors l'altération, on peut la mesurer. Oui. C'est dans ce sens-là que je peux mesurer le champ d'action que vous avez au point de vue visuel. Je peux mesurer l'audition, à tous les appareils d'aujourd'hui, quand vous voulez. Voir jusqu'où l'acuité de votre oreille, l'acuité de votre vision, quand vous allez chez l'opticien. Alors on dit, voyez bien, mais tout peut être mesuré. Mais oui, mais ce qu'on mesure, ce n'est pas la sensation, ce n'est pas l'audition. C'est la condition sine qua non pour qu'il y ait sensation. Mais c'est l'altération. Ça se mesure. C'est de voir, après ils poussent vraiment vers des points de vue multiples divers qui n'ont pas une intéressée. Ce qui est très intéressant, le moteur, donc chapitre 5, 249b, c'est la fin du chapitre 27. Meut toujours dans quelque chose et jusqu'à quelque chose. Je dis d'abord dans quelque chose, à savoir dans le temps, puis jusqu'à quelque chose, à savoir selon une grandeur d'une certaine quantité. Toujours en effet, en même temps, il est en train et il est achevé de mouvoir. Et il y aura toujours une certaine quantité selon laquelle et un autre dans laquelle mouvement se sera produit. Alors, ce qui permettra de critiquer le fameux argument de Zénon. On ne va pas regarder ça, ça nous conduirait trop loin. Je prends tout de suite le livre 8. Donc, j'espère que vous avez vu. L'étendre, le principe reste toujours le même. Donc ça n'a aucun intérêt au point de vue critique, si vous voulez. une extension dans les différents mouvements, c'est tout. Mais dans tous les mouvements, dans tout ce qui émeut, il y aura toujours contact avec ce qui est le mobile. Ce qui est le moteur, je veux dire. Toujours contact, oui.
Est-ce que c'est remis en cause par l'attraction universelle, l'attraction newtonienne?
Non, non, c'est autre chose, l'attraction. L'attraction, elle se place du côté de la finalité. Mais quand vous regardez la chute et le mouvement ému par un autre, alors on ne précise pas, on précise pas. C'est ça qui est très très dit. On est obligé de préciser où c'est cause efficiente ou cause finale, mais vous ne précisez pas. Et au niveau critique, vous n'avez pas besoin de préciser. Tandis qu'au niveau, mais ça explique, voyez, pourquoi certains ne précise pas. Et dès que vous voulez expliquer, vous précisez. Expliquez au plan philosophique. Parce que mu par un autre, si c'est l'attraction, c'est la finalité. Si c'est l'efficience, c'est quelqu'un d'extérieur. Quand elle est efficiente.
Aristote précise bien en disant qu'il y a toujours contact.
Qu'est-ce qu'il y a ? Contact.
Il y a toujours contact, c'est dans l'ordre de la cause efficiente.
Dans l'ordre de la cause efficiente, il y a toujours contact, pas dans l'ordre de la cause finale. Oui. Et c'est, voyez, c'est pour ça que vous ne pouvez pas remonter à l'infini. Voyez, dans l'ordre de l'efficience, au sens tout à fait rigoureux, vous pouvez remonter dans l'ordre de l'infini. C'est-à-dire que c'est indéfini.
Alors, est-ce que c'est précisément parce qu'on peut remonter à l'infini dans l'ordre des causes efficientes que l'on pose le principe, qu'on affirme ce principe, on ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes?
Exactement, on ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes. Bon. Dans l'ordre des causalités efficientes, purement efficientes, vous pouvez remonter à l'infini. Le fameux exemple que prend saint Thomas. Vous enfoncez un clou. Ce clou est particulièrement dur. C'est-à-dire, le bois dans lequel vous enfoncez le clou est particulièrement dur parce que vous tombez sur un os. De sorte que vous appuyez et... par le castaneux. Vous avez... vous prenez un marteau. Vous tapez dessus. Le marteau se fêle. Vous rejetez le marteau. Vous prenez un autre marteau. Le marteau se fêle. On peut en avoir infini. Peracunans. On peut remonter à l'infini. Mais vous ne pouvez pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes efficientes qui implique une détermination et un ordre, donc dans laquelle la finalité intervient. Oui. C'est pour ça que je dis... On ne peut pas remonter dans l'ordre de l'infini. On ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes. Précisons. Dans l'ordre des causes ordonnées.
Oui. Même dans cet exemple, celui qui tape, il est dans un temps limité.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Celui qui casse les marteaux comme ça, il est dans un temps fini.
Mais s'il en a infini, il n'y a aucune hypothèse.
Il peut en faire qu'un temps fini, parce qu'il vit dans un temps fini.
Oui, il mourra avant. C'est ça. Je suis d'accord, mais un autre peut le remplacer. C'est l'exemple qu'il a dit. Je peux ajouter un autre. Alors, et toute l'humanité y passe.
Qu'est-ce qu'on en pense ?
Quoi ? On doit penser que dans l'ordre des causes, dans l'ordre des causes efficientes, axe. Peracidans, on peut remonter à l'infini. On peut. Hypothétiquement. Il n'y a rien qui l'empêche.
Mais ce que j'arrive pas à saisir, c'est justement...
Mais vous êtes dans l'ordre de l'hypothèse.
Ce passage de ce qu'on vient de dire là maintenant, à l'affirmation du principe, on ne peut pas remonter.
Mais oui, parce qu'on prend un ordre des causes déterminées. Et on ne prend pas le point de vue. Vous voyez, on donne cet exemple pour bien préciser que dans l'ordre des causes efficientes, vous prenez, voilà, vous allez prendre. Hein. bien voir ça. Dans l'ordre des causes efficientes. Vous avez deux ordres. Vous avez un ordre qui n'en est pas. Alors c'est le Ferrakshidans. Et puis un ordre propre, le Persé. Dans l'ordre des causes, Ferrakshidans, vous pouvez remonter à l'infini. L'exemple du marteau. Rien ne m'arrête. Et toute l'humanité y passera. C'est ce qu'on est en train de faire, vous savez. Toute l'humanité y passera. Vous voulez aller toujours plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Ben oui, toute l'humanité y passera. Elle travaillera pour aller plus vite. C'est pas une finalité. C'est du Ferrakshidans. On en est là aujourd'hui. On sait plus ce qu'on fait. On est dans le Ferrakshidans. Tandis que dans l'ordre des causes efficientes, où il y a un ordre véritable, la cause efficiente est déterminée par la fin. Donc si elle est déterminée par la fin intervient pour donner un ordre essentiel, un ordre percé. Alors dans cet ordre-là, on ne peut pas remonter à l'infini. Comme dans l'ordre des causes finales, on ne peut pas remonter à l'infini. Alors, on va maintenant passer au livre 8. Donc, vous voyez, je résume, si vous voulez. Nous nous plaçons, première affirmation, le livre 7 est dans une perspective critique. J'espère que vous l'avez vu. Non pas dans une perspective philosophique, qui regarde ce qui est, et regarde les possibles et les impossibles. Possible, dans l'ordre critique, tout ce qui est muet mais par un autre. Je ne peux pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes, dans causes efficientes. Il faut donc poser une réalité au-delà de ce qui est mu. Si je ne pose pas cette réalité au-delà de ce qui est mu, je suis devant une impossibilité. Je suis devant une contradiction. Parce que j'affirme que tout ce qui est mu par soi. Qu'il a son intelligence propre en lui-même. C'est très compliqué. Dès qu'on se place du côté philosophique, et c'est très simple dès qu'on se place du côté critique. Mais nous avons beaucoup de peine, hein. Nous avons beaucoup de peine à distinguer les deux, parce qu'on confond tout le temps, on est dans l'ontologisme, la maladie propre de notre monde d'aujourd'hui. Un ontologiste de droite, un ontologiste de gauche. Les ontologistes de gauche attaquent les ontologistes de droite. Les ontologistes de droite attaquent les ontologistes de gauche. Et on est dans cette dialectique constante de la droite et de la gauche, à tout point de vue. Il faut dépasser ce point de vue de l'ontologisme et redécouvrir le jugement d'existence. Avec le jugement d'existence, vous n'êtes plus en critique. Alors, vous l'acceptez ou ne l'acceptez pas, ça c'est sûr. Je ne demande pas que tout le monde l'accepte. N'accepte que les gens qui sont intelligents. Les autres, barbares. Donc on les laisse brouter leur herbe verte qui n'est pas de l'herbe verte. Qui est des apparences. Ils aiment les apparences, mais laissez-les avec les apparences. Puisque vous ne pouvez pas, à partir de l'apparence, redécouvrir ce qui est.
les derniers chapitres, Aristote met en lumière que le moteur et le nu sont en contact. Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte de plus?
Oui, parce qu'alors, vous voyez, c'est le raisonnement qu'il avait dit. Puisqu'ils sont en contact, ils sont mesurés par le temps et par un temps limité. C'est le temps limité qui me permet de dire qu'on ne peut pas remonter à l'infini dans des causes. Vous voyez? Livre 8. Le mouvement a-t-il été engendré un jour? N'existant pas, mais c'est très actuel tout ça. C'est exactement les questions d'aujourd'hui. Le mouvement a-t-il été engendré un jour? N'existant pas auparavant? Et doit-il être en retour détruit de sorte que tout cesse d'être mu? C'est vraiment la question de savoir si notre univers, il a toujours existé comme ça. Ou est-ce que notre univers... assurément a été affirmée par tous ceux qui ont touché à la science de la nature, à la physique au sens aristotélicien, parce qu'ils sont faits des cosmogonies et portés tout leur examen sur la génération et la destruction, toutes choses qui ne peuvent pas exister sans mouvement. Mais tous ceux, d'une part, qui affirment que les mondes sont infinis en nombre, et que les uns sont engendrés, les autres détruits, à exactement où se situe la science moderne. On n'a pas besoin de comprendre tous les calculs, il suffit de simplement. C'est David devant Goliath. La science moderne, c'est Goliath. Mais, regardez attentivement, le chemin d'existence est entre parenthèses. On est devant une hypothèse. Alors la petite fronde suit. Pour un pas de Goliath. S'il faut l'abattre, si Goliath est méchant, si Goliath n'est pas méchant et qu'il fait de la science pour la science, très très bien, laissez-le. Dans son rêve de Goliath. Mais le matheux pur. C'est tranquille. C'est très beau. Mais ça existe. Oh, on ne sait pas. Mais c'est très beau. C'est quand il fait l'application. Attention. Quand il fait l'application, attention. Est-ce que les mathématiques peuvent mesurer le vivant ? Le vivant dit non. Vous savez bien, chaque fois que vous voyez du macadam et une fissure et en dessous une petite pousse d'herbe, vous dites les mathématiques ne peuvent pas mesurer le vivant. Il y a dans la vie quelque chose qui est au-delà des mathématiques. Ça, c'est la constatation simple, mais qui est très importante, parce qu'on se laisse tous prendre.
Normalement, le vrai mathématicien, il le sait.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Le vrai mathématicien, normalement, il le sait.
Il le sait, très bien, le vrai mathématicien. Et quand vous le dites au mathématicien, il est très heureux. Comme ça, il n'a pas besoin de le dire. Mais il faut exiger aux mathématiciens de le dire. Ça, c'est plus difficile. Mais il faut leur dire, c'est à votre rôle de le dire. Vos mathématiques sont en dehors de ça. Vous mettez entre parenthèses. L'exister. Vous êtes dans l'ordre des possibles. C'est magnifique, c'est extraordinaire, mais c'est l'ordre des possibles. Alors, maintenant, si l'on admet qu'il est un temps où rien ne soit mu, mais tous ceux, d'une part, qui affirment que les mondes sont infinis en nombre et que les uns sont engendrés et les autres détruits, affirment aussi que le mouvement existe, existera toujours, car les générations et destructions des mondes supposent nécessairement le mouvement. D'autre part, les partisans de l'unité du monde et de la non-éternité des mondes soutiennent aussi pour le mouvement les hypothèses correspondantes à ces thèses. Maintenant, si l'on admet qu'il est un temps où rien ne soit mu, cela n'est possible que de deux manières, ou bien celle d'Anaxagore, qui prétend en effet que toute chose était ensemble et en repos en un temps infini, et que c'est l'intelligence qui a imprimé le mouvement et opérer le discernement, ou bien celle d'un pédocle. On est bien dans la critique. Ou bien celle d'un pédocle. Le mouvement et le repos se réalisent alternativement. Le mouvement quand l'amitié fait l'un à partir du multiple. Ou la haine. La face du multiple ou la haine. Le multiple à partir de l'un. Et le repos dans les temps. Intermédiaire. Il exprime ainsi, tantôt l'un apprend à naître du multiple, tantôt en retour par la dispersion de l'un se réalise le multiple. Ainsi, d'une part, ils sont engendrés sans avoir d'existence stable, et d'autre part, en tant que ici pour les choses, le changement ne cesse jamais. Une éternelle révolution les meut ainsi dans l'immobilité. Car il faut entendre que, en écrivant en tant que ici, seulement pour l'étude de la nature, mais encore pour la recherche qui mène au premier principe. Donc, il y a toute une série d'hypothèses. On est dans un langage dialectique au sens aristotélicien, puisque pour Aristote, la dialectique, c'est l'ordre des possibles. Alors, le mouvement est éternel. Aristote va prouver, le mouvement est éternel. Et par le mouvement éternel, il va prouver qu'il faut un premier être immobile. Alors, vous voyez le métaxu. C'est très très intéressant.
Serait engendré ce qui a la puissance d'être mu.